On est dans ce qu'on appelle le triode. Alors, c'est un très très mauvais terme, hein, mais qui arrive souvent dans les choses ecclésiastiques. C'est le nom d'un livre liturgique, tout simplement. C'est le livre liturgique qui va du début du carême à Pâques compris. Voilà. Il y a une particularité dans cette période de carême qui est purement, on va dire, monastique, parce que tout ça est monastique, c'est que les jours ordinaires et non pas en vigile, on chante un canon à 3 odes dans les matines, non pas 9 odes. On est un peu surpris, d'ailleurs, il y a moins d'odes quand c'est en carême, mais c'est comme ça. Ce sont des usages ecclésiastiques, donc ça s'appelle le triode. Alors, les fidèles n'y voient rien, parce que le samedi soir, il y a des 8 odes normales du canon, mais ça fait rien, ça s'appelle le triode. Donc, sachez que c'est ce nom-là, et on arrive dans la période du pré-carême byzantin, et en Occident, on appelle ça les gésimes. En Occident, on entre dans la septuagésime. C'est ce temps qui est entre le carême, qui va nous conduire à Pâques. Pour le rite byzantin, c'est la fin du temps pré-Pentecôte. Et en Occident, c'est la fin du temps des théophanies, le temps de Noël. Et assez curieusement, l'Église, tant en Orient qu'en Occident, a fait un choix remarquable de lecture. C'est tout à fait remarquable, alors que parfois, ça n'a pas de rapport direct avec le temps liturgique. Mais là, c'est vraiment tout à fait remarquable. C'était ça, le triode. Alors, le Christ est à peu près à la fin de sa vie publique et il va commencer sa montée vers Jérusalem. Vous voyez, dimanche dernier, on avait l'évangile de Zachée. Il commence à monter vers Jérusalem. Lui, il y a un petit décalage chronologique, mais c'est très très bien au plan spirituel. Et il va raconter cette parabole parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont bien et qui regardent les autres avec un petit peu de mépris. Si ça, ce verset n'était pas dans le lectionnaire byzantin, mais je l'ai ajouté. Si on n'a pas ce verset, on ne comprend pas pourquoi il a dit ça, le Seigneur. Alors, on pourrait se dire, quand on écoute cette parabole, ben, vous avez vu, elle est très très violente. Pour les Juifs, c'est d'une violence extrême. Il va justifier un public. Et pas un pharisien. C'est terriblement violent. Comme le Seigneur veut frapper les esprits, c'est presque caricatural. On pourrait se dire, au fond, je ne suis peut-être pas tellement bien, je ne suis pas très concerné pour ça. Entrons nous-mêmes, tous, qui d'entre nous n'a jamais considéré qu'il était bien? Pas mal. Qui d'entre nous? Probablement personne. Et qui d'entre nous n'a jamais regardé l'un ou l'autre ou les autres avec un petit peu de hauteur? Qui? Personne. Alors, je vous dis cela parce que nous sommes tous concernés par cette parabole. Même si elle a l'apparence d'être excessive, très raide, mais on est tous concernés. Tous, à un moment donné de notre vie, nous avons péché là. C'est la première chose que je voulais dire. Et on va entrer quand même un tout petit peu dans le contenu spirituel. Alors, évidemment, je vous ai très souvent parlé des publicains, d'ailleurs, on en a parlé dimanche dernier. Les publicains, c'était une horreur pour les Juifs. Ce sont des impurs, comme les lépreux. Ils touchent l'argent sur lequel il y a l'image de César, c'est l'argent ignorable. Et puis en plus, ils sont très voleurs. Et puis ils ont un mode de vie tout à fait nouveau riche. Tout à fait style nouveau riche. Éclatant, bien habillé, parfumé, des talbags, tout bastring. Et les Parisiens, c'est des gens, contrairement à ce qu'on voit parfois sur les icônes, une inexactitude historique. Ils sont très très pieux, ils impliquent tout à la lettre, ils font tous les jeux. Formidable, on dirait vraiment. Avoir ce monde spirituel. Avoir. Donc c'est vraiment ces deux types d'êtres humains sont aux antipodes l'un de l'autre. Alors, lorsqu'ils vont tous les deux au temple, ce qui est bien, tous les deux vont vers Dieu. C'est bien. Y compris le publicain, qui est une personne dite de mauvaise vie. Et tous les deux prient, c'est bien. Tout ça, déjà, c'est très bien. Mais vous avez vu que le pharisien, il s'avance tout près du premier voile, là où il y a les marches, qui permet d'arriver au premier voile. Donc ils s'avancent tout près. On est dans le parvis des Juifs, hein, c'est devant le temple. Puis, bien tête, bien droite. Le publicain, il reste au fond du parvis des Juifs, parce qu'il est juif. Et lui, il n'ose pas lever la tête. Alors, le pharisien commence très bien. Oh Dieu, je te rends grâce. Après, ça commence à se gâter. C'est ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ce qu'il dit n'est pas mal en soi. Il n'est pas voleur. Il n'est pas injuste. J'ai oublié le troisième terme, mais bon, ça va me revenir. Voilà, mais voilà. Et tout ça, c'est bien. Au fond, il confesse qu'il ne fait pas des mauvaises actions, on pourrait dire, d'ordre moral. D'une certaine façon, il se conforme au décalogue. Bien, c'est juste. Tu peux quand même rouvrir le... Tiens, ramène-moi ce que j'ai oublié mes notes. J'ai dit que c'est trop. Il n'est pas adultère. Donc tout ça c'est bien. Alors là où c'est encore moins bien, il dit je ne suis pas comme ce mec-là derrière. Je suis pas comme cette espèce de pauvre type là, même plus. Là, il prend la place de Dieu. Parce qu'il porte un jugement de valeur absolue qui n'appartient qu'à Dieu. Qui connaît le cœur de ce public? Vous avez vu? Il rend grâce à Dieu, il est très bien, il se vante. Mais là, il prend la place de Dieu. Il n'est pas comme ce pauvre type qui est derrière, qui est de la grotte de bique. Il continue. Je jeûne deux fois par semaine. Ah, c'est formidable. C'était très strict sur tous ces aspects éthiques, les pharisiens. Alors ça, c'est vraiment pour les orthodoxes, cette hiérarchie. Qu'est-ce qu'on est fiers de nos jeunes? Qu'est-ce que l'orthodoxie orientale est fière de ce jeûne? On jeûne à peu près 200 jours par an en Orient, dans l'orthodoxie orientale. Et combien regardent les autres avec un certain mépris? J'ai vu souvent dans les paroisses, tous les chrétiens d'Occident se regardaient avec un certain mépris. Ce n'est pas des grands jeûneurs. Mais le pharisien a oublié que le plus grand des jeûnes n'est pas alimentaire. Parce qu'on peut arriver avec un peu d'énergie, on peut arriver à surmonter des envies alimentaires, tout le monde peut le faire. Mais le plus grand des jeûnes est le jeûne des pensées. C'est le plus grand et le plus important des jeûnes. Tous les jeûnes alimentaires ne servent à rien si je ne sais pas arrêter mes pensées. Et si je ne sais pas arrêter mes pensées, je ne peux pas recevoir celles de Dieu. Je jeûne, mais il ne jeûne pas bien. Il ne fait pas le jeûne qui est agréable à Dieu, qui est un jeûne intérieur. Seigneur, sans toi, je meurs. Le jeûne, le vrai jeûne. Et puis un jour, je jeûne deux jours par semaine. Mais quel jeûne? Je donne la dîme de tous mes revenus, c'est sensationnel. Ben, 10% de tout ce qui gagne. Bien, quelle générosité. Mais il a oublié l'essentiel, c'est de donner son cœur à Dieu. Vous avez vu, il ne demande rien à Dieu, il s'en fiche. Il ne demande rien, il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de Dieu. Il a oublié de donner son cœur à Dieu. Et il a oublié la miséricorde, ça c'est la vraie charité. Vous avez vu le publicain? C'est vrai que c'est un nouveau riche. C'est vrai qu'il a des bagues partout, il se parfume, il est bien habillé et tout ça. Mais le publicain n'ose pas regarder vers le ciel. Vous avez vu que le pharisien, il fait comme nos premiers parents, Adam et Ève. Il n'a aucun repentir. Il est très bien. Quand le Christ arrive le soir, ils n'ont rien à se reprocher. On n'a rien fait, ni Adam, ni Ève. C'est pas nous, c'est le serpent. Lui, il est pareil. Il n'a rien fait. Mais le publicain, il dit, oui, j'ai fait, moi. J'ai fait mal, j'ai péché. j'ai péché. Il se repent et il demande pardon. Oui, j'ai péché, pardon Seigneur, je ne suis pas bien. Oh Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est presque la prière du nom de Jésus. C'est-à-dire que le publicain, il a un comportement qui est agréable à Dieu. Nous sommes tous pécheurs en Adam, tous, qu'on soit bien ou pas bien, nous avons tous péché en Adam. Et il a une prière, c'est une vraie prière. Alors il ne regarde pas en l'air, parce qu'il regarde la terre, parce qu'il regarde sa souillure, son péché, mais son cœur est en Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Il se repent et demande pardon. C'est la prière agréable à Dieu. Quelle merveille pour nous, juste au début de ces 70 jours qui vont nous conduire au sommet du ciel, à la résurrection de Christ. On va faire tout le carême. Quelle bénédiction que l'Église donne cette lecture. C'est ça qu'on doit faire pendant tout le carême. Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Cet homme ressemble à Dieu parce qu'il est humble et parce qu'il sait qu'il attend tout de Dieu. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit cette phrase étrange? Celui à qui on pardonne peu aime peu. Il se sent très bien. Mais celui qui a péché, à qui Dieu pardonne, il a un immense amour pour Dieu. Et le Christ dit cette phrase terrible. Il y en a un qui rend justifié et pas l'autre. C'est que Dieu a écouté la prière du publicain. Dieu n'a pas écouté la prière du pharisien. C'est pas automatique la prière. Si je pars de me mettre devant une icône et de dire un certain nombre de textes, il n'y a rien d'automatique, c'est automatique ça.
La prière.
Dieu écoute ou il n'écoute pas. Ça dépend de lui. Et le Seigneur dit cette phrase qui le concerne lui personnellement. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Vous avez vu que le Christ, il fait cela. Il s'est abaissé en s'incarnant. Il va s'abaisser en acceptant d'être crucifié et de mourir, et son Père va l'élever dans sa nature humaine jusqu'au sommet des cieux. Voilà le beau chemin que nous propose l'Église pour 70 jours. Pour s'élever jusqu'à cette haute montagne de Jérusalem, il faut descendre. Il faut commencer par descendre dans le repentir. Et à Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.